Et voilà.
La semaine prochaine, non. La prochaine, Hanouka. Alors, ça, je peux pas le mettre comme ça. Hein. Voilà. C'est parti. Donc, Erev Tov, les Koulam. Page. Je sais pas ce que ça veut dire, page 65. Par contre, je sais ce que ça veut dire qu'on est au Perek. Yud Gimel. Perek Yud Gimel, verset Aleph. Il a fait mode. C'est cela. Exactement. Ok, donc, ça y est. On reprend, donc, pour tout le monde, ceux qui n'ont pas compris, on est dans le livre de Shemot. On est au chapitre 13, verset 1. Ok ? Donc là, la sortie d'Égypte est. C'est bon, ça y est. On est lancé. On est lancé et on a même réussi à faire venir avec nous les différents membres de l'Égypte qui ont décidé de nous accompagner dans la Géoula, dans la sortie d'Égypte. Il y a fait meurtre. Maintenant qu'on a dit ça, hein, tout d'un coup, on va nous donner une paracha. Une paracha, alors, qui nous est bien connue pour nous, puisque c'est une des parachotes des Tfilines, mais on doit se demander, au-delà de la simple paracha, qu'est-ce qu'elle fait là ? Et donc, après, qu'est-ce qu'elle fait dans les Tfilines ? D'abord, qu'est-ce qu'elle fait là, dans le contexte ? Et ensuite, pourquoi elle est devenue la paracha des Tfilines, une des parachotes des Tfilines ? Et est-ce que, véritablement, on nous parle des Tfilines ici ? Okay, on a tout un travail à régler ce soir. Donc allons-y. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Kadesh li kol bechor, peter kol rechem bivne Israël, be'adam ou be'ema, li rou. Dieu nous dit, vous devez me consacrer tous les bechorot. Ils sont à moi. Lama, quel rapport avec maintenant ? Bah, tout simplement, il a tué les Bechorot de l'Égypte et a sauvé les nôtres. Donc il dit, bah, ils sont à moi maintenant. J'aurais très bien pu également tuer les Bechorot de l'Égypte, je ne l'ai pas fait. Donc, vous m'êtes redevable. Kadesh li kol Bechor. Maintenant, nous avons un principe enseigné par nos sages, c'est qu'à chaque fois qu'il y a marqué Kadesh li dans la Torah, c'est les Olam. Ça ne peut pas être enlevé. Ce qui fait que la sainteté des Bechorot reste à jamais, même dans une période où on ne va pas vraiment les mettre en avant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, comme vous le savez, les Kohanim ont remplacé, à un moment donné de l'histoire, les Bechorot. Ça devra revenir un jour où les Bechorot retrouveront leur place. Les premiers-nés retrouveront leur place. Donc, au Beit Amikdash Ashalishi, dans le troisième temple, ne serviront pas que les Kohanim, mais également les premiers-nés. Est-ce que les Kohanim seront relégués en tant que remplaçants ? Non. Car ma'alim bakodesh velo moridim. À partir du moment où on a mis les Kohanim à ce statut de Kohanim, on ne va pas leur enlever. Donc ça veut dire qu'au Beit HaMikdash HaShlishi, on aura et les Bechorot et les Kohanim. Il y a fort à penser. Je ne suis pas prophète, mais il y a fort à penser que ceux qui seront les Bechorot des Kohanim, alors ils auront un statut encore plus particulier. Ok ? Oui ?
Les Bechorot, c'est les filles et les garçons.
Alors, vous avez bien raison de le souligner, c'est a priori, et les filles et les garçons ne vont... Alors, c'est pour ça que je continue ma phrase. C'est vrai qu'on peut être premier-né en étant une fille. Mais dans la mesure où, de la même façon que les filles n'héritent pas de la terre d'Israël, sauf dans le cas où, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas de garçons et donc les filles vont hériter, eh bien, de la même façon que ce ne sont pas les Kohanotes qui vont faire le lien avec Akadosh Baruch Hu, ce sont les Kohanim, même si elles sont Kohen et qu'elles peuvent manger de la Trouma et qu'elles peuvent faire la Kedusha, dans la mesure où elles ne prennent pas part active à, on va dire, la vie de la société à l'extérieur, alors, à l'époque, elle n'était pas celle qui faisait le service. Est-ce que cela va changer dans le troisième Beit Hamikdash parce que, bah, aujourd'hui, les filles prennent une part active dans la vie de la société ? C'est une bonne question à laquelle il faudra se poser et on la posera au Sanhedrin lorsqu'il sera remis en place. Est-ce que le statut des femmes Cohen ou des femmes Bechorot va évoluer ? C'est une bonne question.
Pourquoi vous dites Bechorot et non pas Bechorim ?
Eh bien, parce que c'est un mot qui est irrégulier. Et donc, bien que ce soit un mot masculin, on dira Bechorot et pas Bechorim. OK ? Oui ?
Oui, bon, c'est une question de Gémeco, tu me diras. Mais bon, elle est importante.
Vas-y.
Quel est le statut des femmes qui ont fait des fausses couches ?
Ah, ben, il n'y a pas de problème. Elles n'ont pas de Bechor.
Tu vois le problème ?
Mais je t'ai répondu. Ouais, le Béchor est mort.
Ça peut être gênant.
Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de très connu. Le Béchor, comme dit le verset ici, c'est Peter Rechem. Celui qui a ouvert l'utérus.
Et tu imagines. Donc, tout le monde saura qu'elle a fait une fausse couche.
Ah oui, bah c'est comme ça.
C'est pareil.
Pardon ? Césarienne, pareil, c'est pas un Béchor. Nachon, Yaakov a 4 Bechorot. Nachon, Reuven, Dan, Gad et Yosef. Ok ? Donc effectivement, quelqu'un qui a fait une fausse couche ou qui a accouché par césarienne, c'est pas un Bechor. D'accord ? Oui ?
Pour les femmes, il faudra faire paraître dans la presse, parce que c'est la première fois que j'entends dire. Que
il faudra faire paraître dans la presse quoi ?
Les femmes Bechorot.
J'ai pas dit qu'elles vont servir au Beth Amikdash. J'ai dit c'est une question qui va se poser lorsqu'on va construire le Beth Amikdash et ça sera au Sanhedrin d'y répondre. Mais c'est une vraie question. Dans la mesure où le statut des femmes dans la Torah et dans la Halakha est intimement lié à leur statut dans la vie sociale, eh bien, vu que la vie sociale, elle a profondément changé ces derniers temps, est-ce qu'on va statuer différemment ou est-ce que pas ? C'est évidemment pas moi qui vais prendre sur moi de décider, mais le tribunal rabbinique du peuple juif, le grand rabbinat d'Israël ou le Sanhedrin qu'on va reconstruire Bezrat Hashem, eh bien, il statuera.
Mais ça changera tout le statut de la femme, alors parce que, par exemple, si elle fait un vœu, c'est son mari qui annule son vœu.
Nachon, il y a pas mal de choses qu'il va falloir pas repenser, mais réanalyser. Effectivement, ça ne veut pas dire que la halakha va changer.
Réévaluer,
peut-être que la halakha restera la même. Parce que il y a des choses que moi je ne comprends pas qui vont nous expliquer que non, ça, à ce niveau-là, ça n'a pas changé. C'est ça, on verra. On verra. Bah, disons que je vois mal quelqu'un d'autre prendre sur lui d'avoir les épaules suffisantes pour. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais je vois mal les choses. On verra. Peut-être qu'il y aura un rabbin qui va prendre les choses à bras le corps. On va dire comme ça. À mon avis, personne ne voudra statuer sur un sujet qui va faire polémique, alors que c'est pour l'instant que théorique. Ouais. Donc ils ne vont pas se prendre la tête. De la même façon, il y a une question qui s'est posée au lendemain de la guerre des six jours. Est-ce qu'on doit continuer dans la tfila de Mincha de Tisha B'Av de rajouter la partie qui parle de Nachem ? C'est-à-dire toute la partie qu'on rajoute dans la tfila de Tisha B'Av l'après-midi, où on demande que Dieu il console Jérusalem, qui est détruite, qui n'a plus personne. Après la guerre des six jours, la question a été posée par plusieurs rabbinim, de savoir est-ce qu'on doit continuer à le dire. Ah, c'est un mensonge.
Dans le
Birkat Hamazon, mais je prends la tfila de Nachem, parce qu'elle est encore plus probante. Après, a priori, dans le Birkat Hamazon, tu peux toujours dire que c'est bien ce qu'il y a, mais on veut continuer. Mais là, dans la tfila de Nachem, on te décrit Jérusalem comme étant délabrée, détruite, il n'y a plus personne dedans, Avela, Mikol Ish. C'est pas vrai. Si bien que le Rav Goren, lui, il aura dit qu'il faut changer le Noussar de Nachem. Mais finalement, le grand rabbinat d'Israël à cette époque-là va préférer dire que c'est une marloquette. Est-ce que ça dépend du statut. Bichlal, le Rav Tzvi Yehuda, il a dit que pour l'instant, on ne change pas, sans donner véritablement de raison. Le Rav Goren lui a dit on change. Mais de manière générale, le grand rabbinat d'Israël a préféré statuer de manière plus large, puisque la question qui a été posée sur Nachem après la guerre des six jours avait déjà été posée après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce qu'on doit, Bichlal, continuer à jeûner à Tisha B'Av ? Vous allez me dire, attends, oui, c'est la destruction du temple. Et là, c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que on jeûne à Tisha B'Av à cause de la destruction du temple ou est-ce qu'on jeûne à cause de la destruction de la souveraineté d'Israël ? Ceux qui pensent que c'est la destruction du temple, alors évidemment, on n'a pas encore construit le Beth Amikdash, donc on continue. Ceux qui pensent que c'est pour la souveraineté, ben, on l'a retrouvé et donc on devrait arrêter. Le grand rabbinat d'Israël a statué comme les avis qui disent Beth Amikdash, comme ça on ne se mouille pas. Et dès qu'on va construire le Beth Amikdash, eh ben on reposera la question. Et là, il n'y aura plus d'excuses.
Alors, question. Il y a du boulot.
D'accord.
Question.
Oui.
Peut-on revenir à nos moutons?
Alors, exactement, revenons. Revenons. Donc, Peter Kol Rechem, Bivne Israël, Badam Mavehema, Li Hu. Donc, on comprend pourquoi est-ce que c'est marqué ici, puisqu'on vient de parler de Makat Bechorot. Vayomer Moshe El Ham, Zachor et Ayom Aze. אשר יצאתם ממצרים בבית עבדים כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יוצאים בחודש האביב. Nous devons donc nous rappeler de cette soirée-là quand bah tant qu'il faut continuer à s'en rappeler. Quand il n'y a plus de raison de s'en rappeler, est-ce qu'on continue de s'en rappeler? Bah pas forcément. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחוזק יד עושה השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. Donc il faut s'en rappeler tant qu'il faut s'en rappeler. Mais dès qu'il faudra plus s'en rappeler, est-ce qu'on s'en rappellera encore? Qu'est-ce que ça veut dire il faut plus s'en rappeler?
Oui, c'est ça.
Hein? Bah, je sais pas, moi le prophète Jérémie nous dit que yavo yom ine yamim ba'im velo ya'mer od chay Hashem אשר אלה אתכם ממצרים, מארץ מצרים, אלא חי השם אשר אלה והשאיר את זרע בית ישראל מכל מארץ הצפונה ומכל הארצות אשר ידחתם שם. Je vais traduire, je vais traduire. Deux secondes. Attends, avant de débattre, je vais traduire. Histoire de. Même si je sais que vous êtes tous des hébraïsants, mais peut-être que pour les millions de téléspectateurs, eh bien, il y a des gens qui ne comprendraient pas l'hébreu. Donc, nous dit le prophète Jérémie, viendra un jour où quand on voudra parler de Dieu, c'est-à-dire qu'on voudra rappeler la grandeur de Dieu, on ne dira plus Dieu. Ah, Dieu, bah, évidemment, Dieu, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais on dira, Dieu, c'est celui qui nous a sortis des terres du Nord et de tous les pays dans lesquels il nous a envoyés en exil. Donc, d'abord, avant de débattre si on y est arrivé ou pas, le prophète nous dit qu'il y a un temps où on ne dira plus la sortie d'Égypte. OK ? Alors, est-ce que c'est arrivé déjà ou pas? Eh bien, la réponse est oui, évidemment que c'est arrivé. C'est ce qu'on appelle l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël, c'est exactement la réalisation des promesses de Jérémie qui nous dit qu'on est revenu de Russie, de Pologne et des autres pays. Arimaze Eretz Tsafona, la terre du Nord. Aujourd'hui, on a le recul pour savoir c'est quoi la terre du Nord. Il est évident qu'on ne parle pas du pôle Nord. Non, pourquoi? Par rapport à Israël, Mitzafon Tipatach Ara. C'est-à-dire que lorsque les Babyloniens... Non, deux secondes. Les Babylone et Israël, Babylone n'est pas au nord d'Israël. C'est faux. Géographiquement parlant, c'est même plus au sud. Par contre, lorsque les Babyloniens vont attaquer, ils attaqueront par le nord, pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que le seul chemin accessible pour arriver à Israël, c'est par le nord. Parce que par le sud, c'est le désert du Negev. Par l'ouest, c'est la mer. Par l'est, c'est le désert, qui est la Jordanie aujourd'hui, mais c'est un désert. Donc on passe pas, on fait pas passer une armée par là. Donc le seul moyen, c'est de passer par le Tigre, l'Euphrate, remonter les fleuves, arriver tout en haut par le nord, par ce qui est le nord de la Syrie actuelle, passer par la vallée du Jourdain et redescendre. Donc, Mitzafon Tipatachara, ça c'est sûr au niveau géographique.
Hein? On va les voir venir.
D'abord, on peut les voir venir, mais je veux dire, le seul moyen de faire passer à l'époque une armée, c'est de le faire passer par le nord. Donc ça, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, Babylone, c'est pas au nord d'Israël. Et là, il y a un moment donné où le peuple juif sera envoyé dans plein de pays, parce que le prophète ne dit pas que Eretz Tsafona. Eretz Tsafona, en premier lieu, ou Mikola Aratzot Asheridartim Sham. Donc, il y a que viendra un temps où le peuple juif sera envoyé en exil et principalement sera dans la terre du nord, mais également dans d'autres terres. Et c'est de là qu'ils reviendront de l'exil. Eh bien, les amis, ça s'est complètement réalisé. Ceux qui sont arrivés pour reconstruire la terre d'Israël sont venus principalement, dans un premier temps, des terres d'Europe du Nord et de l'Est, hein, à savoir la Russie, la Pologne, machin, et également des autres pays. Les autres pays, c'est le Yémen, c'est l'Afrique du Nord et c'est l'Europe centrale. Mais donc, on voit que ça s'est totalement réalisé. Et le prophète a l'air de nous dire que c'est beaucoup plus fort, cette période-là, que la période de l'Égypte. Et à ça, je réponds évidemment. Quand tu es en exil pendant 200 ans dans un pays et que tu en sors, c'est très bien. Mais c'est beaucoup plus fort quand tu étais en exil pendant 2000 ans et que tu sors de 100 pays.
Est-ce qu'il faut changer les commandements?
Pourquoi?
Le premier commandement.
Non. Ben c'est Bémet Nahon, où il nous a fait sortir d'Égypte. La question, c'est est-ce qu'on doit continuer à le rappeler? Donc en fait, est-ce qu'on doit continuer à faire Pessah aujourd'hui?
Non.
Eh bien si. Parce que le Talmud, dans le traité de Brachot, va nous dire il faut continuer à faire Pessah. Comment est-ce possible? Eh bien, bien que Ben Zoma ne soit pas de cet avis, et lui, il pense qu'il faudra arrêter suite à ce verset-là, eh bien, nos sages vont dire, mais non! C'est vrai que dans le verset, il y a marqué, on ne dira plus. Mais sache que quand il y a marqué dans la Torah, on ne dira plus, ça ne veut pas dire on dira plus, ça veut dire on dira moins. Et ils se servent, pour appuyer leur dire, du verset de la paracha qu'on a lu cette semaine. Lorsque Dieu change le nom de Yaakov, il lui dit, « Lo yamer od shimcha Yaakov ki im Israël. » Or, tu vois qu'après, il va continuer à être appelé de temps en temps Yaakov. Donc de là, on apprend que c'est vrai que viendra un temps où la Géoula que nous vivons actuellement est beaucoup plus grande que celle de l'Égypte, mais on ne n'annulera pas complètement la sortie d'Égypte, on saura juste qu'elle est moins importante que la Géoula que nous vivons actuellement. En d'autres termes, on continue à faire Pessah Rabotai, personne n'a le droit de s'arrêter de faire Pessah et de manger du Hametz à Pessah, tout en sachant que Yom HaTzmaout est plus important.
Une des raisons pour lesquelles il faut continuer à louer Dieu, c'est qu'il nous a fait survivre à la Shoah.
Oui, mais je n'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter de louer Dieu à aucun moment. Ok, oui.
Il y a une prophétie, je n'ai pas la référence en tête, où il est dit qu'il ne laissera pas un seul parmi les voyous.
Ah oui, tu as raison. C'est-à-dire que ce n'est pas fini.
Voilà.
Zenachon. Zenachon, ce n'est pas terminé, mais pourquoi je dis qu'on peut déjà comptabiliser la prophétie de Jérémie comme étant actuelle? Parce qu'on est revenu de partout. On est revenu de partout. Non, je veux que tu comprennes bien. On est revenu de partout. Il y a encore des gens dans ce partout qui sont là-bas. Mais Am Israël est revenu de partout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore revenus. C'est vrai, c'est un problème. Mais c'est un problème individuel chez chacune de ces personnes-là.
C'est
en cours, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé le kibbutz Galouyot. Je dis simplement qu'on peut déjà comptabiliser la réalisation de la promesse de Jérémie disant qu'on va revenir de partout. Maintenant, c'est vrai qu'on doit continuer le travail, c'est pas terminé, il y a encore des gens en France, il y a encore des gens aux États-Unis, il y a encore des gens ailleurs, il faut les faire rentrer. Bezrat Hashem, Inch'Allah, Amen. Ok ?
Que ceux qui nous entendent...
Voilà, maintenant qu'on a un bon micro et une bonne caméra, que ceux qui nous entendent, eh bien, comprennent que c'est le moment de se bouger. J'ai dit à mes parents tout à l'heure, il y a quelques heures, mes parents sont en France, alors certes, le projet, c'est de venir dans 4 ans, que mon père part à la retraite dans 4 ans. Donc, c'est le projet. Mais d'un autre côté, ma sœur doit accoucher en février. Et donc, j'ai dit, comment vous allez faire pour la Brit Mila? Il paraît que c'est un garçon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Elle dit, oh, Corona, on ne sait pas, on verra. Je dis, pas compliqué. Fais l'Alia. Reste en France, mais fais l'Alia. Comme ça, tu seras officiellement israélien et tu pourras venir quand tu veux. Nounou. Non, ma soeur est en Israël. Ouais. Non, elle est en Israël. Bon, Rachel. Donc, voilà. Vayomer, donc, Moshe, Ayom Aze, Asera, Ayom Atem Yotzim Bechodesh Aviv. Nous sortons au printemps. Ce qui fait qu'on devra toujours faire en sorte que Pessah est au printemps. Ce qui va nous mettre en place Chodesh Aibour, le mois qu'on rajoute de temps en temps, c'est pour que Pessah soit toujours au printemps. Ok ? Pas comme nos amis musulmans qui ont un calendrier qui n'est que lunaire. Et donc le ramadan peut tomber des fois en hiver, des fois en été, au gré des années. D'accord ? Donc, Ayom atem yotzim bechodesh ha-aviv. Vaya ki yeviacha Hashem el eretz ha-kenani va-achiti va-emori va-aprit va-achivi va-evusi asher nishba la-avotecha la-tet lach eretz zavat chalav u-dvash va-avadeta et ha-avoda hazot bechodesh hazeh. Donc c'est quoi la-avoda hazot ? Korban, Pessah. On nous dit, lorsque tu arriveras sur la terre que j'ai promis à tes ancêtres, la terre d'Israël, tu feras Korban Pessah.
Mais pourquoi il l'a donné d'abord aux Cananéens?
D'abord, il ne l'a pas donné d'abord aux Cananéens, il l'a donné d'abord à Shem.
Oui.
Et ensuite, les Cananéens sont venus et nous l'ont piqué.
Ah, d'accord.
Ils ont conquis la terre d'Israël. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il leur a donné? Semble-t-il que c'était très important que la terre d'Israël acquiert cette dimension, ou du moins pas qu'elle l'avait toujours, mais que les hommes comprennent que pour hériter de la terre d'Israël, il faut la dimension de Knaan. Knaan, c'est
acquérir.
Non, pas Kinyan, et la Knia, à savoir la soumission. Comme nos amis musulmans l'ont très bien compris, puisqu'ils ont créé une religion de soumission. Islam veut dire soumis. Soumis à Dieu. Donc pour atteindre la terre d'Israël, il faut la dimension de Knia. C'était très important qu'elle passe d'abord dans les mains des Knaanim. Ok, qui étaient soumis complètement à leur divinité.
C'est pas aussi un peu, je sais pas, c'est idiot, est-ce que je veux dire.
Je sais pas.
Comme nous, on était prisonniers en Égypte, la terre, elle était prisonnière un peu des...
Oui, mais enfin, la terre, elle était déjà au Knaanim avant qu'on soit en Égypte. Parce que déjà, à l'époque d'Abraham, c'était Eretz Knaan. Oui, mais d'accord, mais ça aurait marché si les Knaanim étaient arrivés dès que nous, on est partis en Égypte. Mais sauf que c'est pas le cas. C'est-à-dire ? Donc, désolé. Désolé. C'était bien tenté, mais non. Ok, Shivat yamim tochal matzot, ou bayom hashevi chag la Hashem. Donc ça veut dire quoi? Que bayom hashevi c'est chag. C'est quoi ce chag de yom hashevi? C'est chag la Hashem, mais ça représente quoi ce yom hashevi de Pessah? Ben, ça représente un événement qui n'a pas encore été mentionné. Ce qui nous montre bien que la Torah n'a pas été écrite à ce moment-là. La parasha de Bo, elle a été écrite quand? Juste avant la mort de Moshe, comme tout le reste de la Torah. Bien que c'est une marloquette dans le traité de Megillah, est-ce que la Torah a été donnée parashiot, parashiot, o chatuma nitna? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a commencé à dicter au Har-Sinaï de Bereshit jusqu'à la parasha d'Itro? Et après, à chaque fois qu'il y avait un événement, Dieu a dit à Moshe, viens, on écrit. Ou alors, est-ce qu'il n'a rien dit d'écrire, et à la fin de la vie de Moshe, juste avant l'entrée en Israël, il a dit à Moshe, allez, viens, on se pose et on écrit. Tout d'un coup. En tout cas, dans les deux cas, même si l'avis de Chazal va plus dans le sens de la deuxième avis, à savoir, du deuxième avis, à savoir que ça a été écrit tout à la fin de la 40e année du désert, dans les deux cas, c'est sûr que ce texte est postérieure à la sortie d'Égypte, puisque ce texte, dans tous les cas, minimum à partir du Har-Sinaï. Ce qui veut dire que c'est quoi le septième jour qu'on fête dans la fête de Pessah? C'est la traversée de la mer Rouge.
Ça, c'est pas dit.
Non, je sais que c'est pas dit.
Comme Shavuot, c'est pas dit que c'est la...
Mais j'ai pas besoin qu'on me le dise.
Non, mais pourquoi
j'ai... Mais j'ai pas du tout besoin qu'on me le dise.
D'accord,
mais, hein, mais d'accord, Anbaya. Mais un jour de fête ne peut pas ne pas symboliser quelque chose qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit Shabbat. Il ne peut pas y avoir une fête et tu es arrivé après Shabbat. C'est pour ça.
C'est une théorie.
Que quoi?
Qu'il y a forcément un événement.
Non, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. S'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête. On n'est pas mystique dans le judaïsme. On est concret. Et donc, il y a une fête. Et pourquoi je n'ai pas besoin de te préciser ce que c'est? Parce que tout le monde le sait. Les gens, ils ont compté. Ils ont bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de... Un mec qui est sorti d'Égypte, il sait exactement que 3 jours après qu'il soit sorti d'Égypte, Pharaon s'est mis à les poursuivre et que ça a mis 3 jours encore pour qu'ils nous atteignent et que donc le lendemain, il y a eu l'histoire de la mer Rouge. J'ai pas besoin qu'on me l'écrive. Parce que le mec qui reçoit la Torah, il le sait. De la même façon, j'ai pas besoin que tu m'expliques que Matan Torah, Mahamad Ar-Sinaï, ça se passe 49 jours après la sortie d'Égypte. Les gens, ils l'ont vécu. Ils le savent. Donc, je n'ai pas besoin que tu me le dises.
Mais la Torah, elle est écrite pour...
pour eux. Pour eux.
Elle n'est pas écrite pour nous.
Non.
Elle n'est pas écrite pour toutes les générations.
Absolument pas. La Torah écrite, elle a été donnée à une génération donnée. La Torah orale, elle est pour toutes les générations. Et donc, elle évolue de génération en génération et elle nous dit ce qu'on a besoin de savoir. Ok ? Ça va pas ? Donc... Ce verset fait référence à quelque chose qui va être connu plus tard. Mais ça ne nous dérange pas. Au moment où Moshe le donne, ce verset, ça s'est déjà passé à la sortie d'Égypte. Donc on sait ce qui s'est passé le septième jour. Ah, pourquoi il le marque ici? Tu aurais pu poser la question dans le livre de Bereshit. Lorsque dans la paracha de cette semaine, on nous a dit que Yaakov il s'est battu avec un ange et que donc après on nous a dit donc les Bnei Israël ils ne vont pas manger le nerf sciatique. Pourquoi tu le marques là maintenant? Ça ne s'est pas passé maintenant, c'est une halakha qui a été donnée beaucoup plus tard. Nahon, mais c'est dans le contexte. La Torah n'est pas réglée de manière chronologique, mais de manière thématique.
Et les parachiotes, elles sont découpées. C'est Hachem qui a découpé les parachiotes.
Les parachiotes, c'est-à-dire, tu parles de quoi quand tu dis parachiotes? Si tu dis beau, vaera, argent, non. Si tu dis parachiotes, comme il y a dans la Torah, c'est-à-dire que dans la Torah, il y a des paragraphes qui s'appellent parachiotes, qui sont séparés par on saute une ligne. Ces parachiotes-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Le découpage de nos sidrotes à nous, la sidra de la semaine, c'est pas un découpage de Akadosh Baruch Hu, c'est un découpage de la tradition juive, qui n'a pas toujours été le même d'ailleurs. Puisqu'en Eretz Israël, on découpait autrement, on faisait des toutes petites sidrotes, puisqu'on terminait la Torah non pas une fois par an, mais une fois tous les 3 ans et demi.
Mais dans la Torah, quand c'est écrit, c'est marqué par toute la paracha de Bo, et après on passe à la paracha de Béchala, par exemple.
Oui, oui.
Oui, c'est comme ça.
Mais sauf que ça ne s'appelait pas à l'époque paracha de Bo.
Oui, j'ai compris.
Ok.
Donc pourquoi toutes les makot, elles n'ont pas été écrites dans la même paracha?
Encore une fois, c'est la même paracha. Sauf que ça.
Dans la Torah, il n'y a pas d'espace?
Non. Ça continue.
Ah, d'accord.
Ok. Merci. Bézéder. Ok. Donc, Matzot et Acher. Matzot et Shivat Ayamim. Velo Yirael Lecha Chametz. Velo Yirael Lecha Seor. Bechol Givulecha. Ça, on a déjà expliqué la différence entre Chametz et Seor. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Veigadeta Lebincha. Bayom Aou Lemor. Bavurze. Asa Hashem li betzeti mimitzrayim. Ah! Là, nous avons la mitzvah de Haggadah. La mitzvah de la Haggadah qu'on lit le soir de Pessah, elle est marquée ici. Veigadeta lebincha bayom ahu lemor.
C'est quoi bayom ahu?
En ce jour-là, donc du. Hein? Du 15 Nissan.
Ah oui,
celui qu'on t'a dit depuis un chapitre. Que c'est ce jour-là, ce soir-là qu'on parle de toute l'histoire. On te dit, tous les ans, c'est à ce soir-là que tu raconteras, et c'est faux ce que je viens de dire, ben, ton fils, l'histoire. J'ai dit c'est faux parce que veiga d'eta, ça ne veut pas dire raconter. Qu'est-ce que ça veut dire veiga d'eta? La halakha nous dit que lorsque je dois raconter à mon fils le soir du Seder l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une halakha que je dois raconter les filles d'Ato Shel Ben. Dit le Rambam dans Ilchot Chametz ou Matzah, c'est halakha le maase que je dois raconter la sortie d'Égypte à mon fils en fonction de ce qu'il comprend. Donc, toutes les personnes qui font un soir de Seder et qui invitent plein de gens le soir du Seder et qui s'occupent de tous leurs invités, mais leurs petits-enfants, ils ne s'occupent pas d'eux le soir du Seder, c'est-à-dire ils sont à table, hein, pas de problème, mais il raconte des grands livres de Torah, tout ça, machin. Lo asu et mitzvah veigadeta lebincha. Tout simplement. Donc oui, c'est très important. Alors, je ne sais pas, là, Bezrat Hashem, l'année prochaine, ce ne sera plus le corona, mais moi, je peux vous dire que lorsque je faisais des sdarim dans des hôtels et tout ça, et que j'animais le seder pour des hôtels, il y a un moment donné dans la soirée, je ne m'occupe pas des autres et je raconte à mes enfants, chacun différemment, le seder. Alors, ça prendra un quart d'heure, 20 minutes. Alors, en général, ça passe très bien parce que les gens, ils sont très intéressés d'en fait, d'entendre l'histoire comme un enfant. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas du tout l'histoire. Donc, en fait, ils viennent tous écouter ce que je raconte à mes enfants. Et ça fait encore plus ramoud parce que, genre, je suis avec mes enfants, mais les autres, vous êtes tous mes enfants. Ils ont tous l'âge d'être mes grands-parents, mais yalla la briout. Mais je vous dis à vous que si vous avez l'honneur, la chance de la semaine prochaine, de faire Pessah avec vos enfants, vos petits-enfants, machin, eh bien, toi, tu n'as pas la mitzvah de raconter à tes petits-enfants la sortie d'Égypte. Mais tu as, toi, la mitzvah de raconter à Michael la sortie d'Égypte. Comme lui, il comprend. C'est-à-dire avec toutes les problématiques d'un adulte, machin. Lui, il devra raconter à ses enfants en mode petit.
Même quand vos enfants sont...
Ben voilà, c'est plus ton fils. Nachon, si ton fils il est pas là mais que tu as que les petits enfants, alors tu as la mitzvah de leur raconter. Mais si ton fils il est là, alors toi tu racontes à ton fils et ton fils à ses enfants.
Ils savent autant que nous.
Hein?
Ils savent autant que nous.
Et alors?
À l'école.
Et alors?
On
Mais t'as pas compris l'idée. T'as pas compris l'idée. Personne t'a demandé de lui raconter l'histoire. Parce que si on t'avait demandé de lui raconter l'histoire, on t'aurait dit Vesi parta le bincha. Mais on t'a pas demandé de le saper. La mora, elle peut très bien le saper aussi. La ganénette aussi. Et le film aussi. Toi, on t'a demandé de les hagid. Qu'est-ce que ça veut dire les hagid? Ça veut dire de tirer vers toi. Les hagid, ça vient du mot guide. Guide, c'est la partie dans le corps qui va servir de rattacher deux membres les uns avec les autres. Enfin, de tendon, voilà, de rattacher le membre l'un avec l'autre. Ce qui me permet de faire comme ça, c'est parce que j'ai des guidim. Ok? Guide, les hagid, ou alors en araméen, quand on dit goud asik, goud achik, dans la Talmud, dans Maseret Roulin, ou dans Maseret, on a vu dans Maseret Eruvin il n'y a pas longtemps, c'est rattacher. Donc les hagid, ça ne veut pas dire raconter. Parce que raconter, n'importe qui peut le faire. Mais raconter de la sorte que ton fils il soit attaché à toi, qui toi est attaché à ton père et à son père et à son père. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que tu parles un langage que seul toi et lui comprennent. Le langage de votre famille, la façon dont votre famille a traversé l'histoire depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la même façon que ma famille elle a eu de traverser l'histoire. Alors oui, moi quand je raconte la sortie d'Égypte à mes enfants, c'est sûr qu'il y a une histoire de Shoah qui va tomber dedans. Parce qu'une malassote, c'est mon héritage. Et forcément, à un moment donné, je vais parler de leur arrière-grand-mère qui était à Auschwitz et qui est sortie. Et regardez où vous êtes. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Et c'est ça la Géoula. Maintenant, quelqu'un qui a vécu au Maroc, qui n'a pas vécu l'histoire de la Shoah, parce que Baruch HaShem, les Marocains ont été protégés par le roi du Maroc, ben, il ne va pas forcément se ressentir comme étant obligé de parler de ça. Mais il va parler d'autres choses qui sont l'héritage de son identité. Et donc, c'est très important. Oui, bien sûr que la Ganénette, elle a raconté l'histoire concrète. Mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé de faire. On t'a raconté de rattacher cette histoire-là avec ton histoire. OK? Donc, « Vehigadeta lebincha bayom ahou les morts. » Bavurze. Mazé bavurze. La libération. Asa Hashem li betzeti mimitzraim. Vous vous rappelez de ce que dit le Racha dans la Haggadah? Qu'est-ce qu'il dit le Racha dans la Haggadah? Il dit, avant de, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma avoda azot lachem.
À vous, il n'est pas concerné.
Le Rav Tzvi Yehuda Kouk nous enseigne et nous rappelle que l'imprimeur n'est pas, l'éditeur n'est pas non plus le plus grand de tous les Talmidei Chachamim de l'époque. Et qu'on n'est pas toujours obligé d'écouter l'imprimeur ni l'éditeur. Il dit, la ponctuation n'existe pas dans la Haggadah de base. Et donc, il t'invite à relire le texte en bougeant la virgule. En disant, lorsque le Racha dit « Ma avoda azot lachem », toi, tu penses que c'est la fin de la parole du Racha, et le narrateur répond en disant « Lachem, velolo !» Il a dit « À vous, il n'a pas dit à lui, donc il s'est exclu. » Rav Tzvi il dit « Il faut lire avec une virgule. « Ma avoda azot lachem, virgule. » C'est toujours le Racha qui parle. « Lachem, velolo !» C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cet avoda pour vous? Pour vous, pas pour lui. Eh oui, ça change tout. Parce que c'est quoi la avoda en question? On a dit, la avoda en question, c'est une lafa shawarma. La matzah à l'époque, avant que les Ashkenazim imposent que c'est un morceau de carton carré, eh bien, la lafa, c'est une crêpe. Une crêpe par chametz, mais crêpe quand même. Et donc, dans cette crêpe, tu mets quoi? Tu mets un peu de salade. Tu mets un peu de sauce, parce que sinon, ce n'est pas bon. La sauce en question, elle s'appelle charoset. Ce n'est pas du tout la sauce de nos grands-mères, qui est une pâte. Ah oui, nous, on fait des pâtes. Mais la sauce, ce n'est pas une pâte, c'est liquide. Dans le soir du Seder, tu dis, dans Manishtana, qu'on trempe deux fois. Alors, la première fois, c'est le carpas dans l'eau salée, je veux bien. Mais la deuxième fois, c'est qu'on trempe le maror dans le charoset. Toi, tu ne trempes pas. Tu prends une cuillère, tu mets la cuillère dans le charoset et tu l'étales sur... Ah, chez vous, il est liquide?
Dans sa coutume.
Ah, bah, c'est très bien.
Mais nous, non, donc on fait les deux.
Bon, liquide, c'est le top, c'est l'origine. Les témanimes, ils ont encore un charoset bien liquide et bien harif. Bon, c'est Thémanim, qu'est-ce que je veux faire? Donc tu mets un peu de srug dans ta lafa, t'as mis ta salade. Hein? Quoi, je t'annonce? Ah, on dit pas la fin? Moi, je sais, la brioute. La crêpe, ça a l'air. Et dedans, n'oublie pas de mettre également le corban pessar. C'est quoi le corban pessar? C'est un shawarma. C'est une viande grillée. C'est au feu. C'est génial. Tu te roules ça bien comme il faut et tu te fais un kiff. Le rachat, il dit, nous, bémet, ma avoda azot lachem, c'est lachem. Parce que tu kiffes le shawarma, moi aussi. Mais dis pas que c'est pour lui. Réponse, ba'avour ze, asa Hashem, li, betsetim imitzraim, li, velolo. Nachon, t'as raison, Dieu, il veut qu'on kiffe. Nachon, c'est le but. Ok? Donc, ba'avour ze, asa Hashem, li, betsetim imitzraim. Et là, arrive le verset tant attendu. Ve'aya lecha le'ot al yadecha ou le zikaron benenecha. Cela sera pour toi un signe sur le bras et un souvenir entre tes yeux, le man tiye torat Hashem beficha, ki beyad chazaka otziacha Hashem mimitzrayim, veshamarta et achuka azot le moada miyamim yamima. Yafé? Hein? Là, on mélange pas, on te conclut.
Quoi?
On dit, voilà. Je t'ai donné toutes les infos.
Est-ce que tu mets la lafa sur ton bras?
Ah non, justement. Toi, tu me parles d'une lafa. Pourquoi d'une lafa?
Vous voulez dire Eshtanou.
Oui, tu voulais dire Eshtanou. Mais pourquoi tu me parles de ça?
Je
mais non, j'ai dit Ve'aya lecha le'ot ma. Ma ze ve'aya lecha le'ot al yadecha ou le zikaron benenecha. C'est quoi?
Les
toi, tu dis les téfilines. C'est pas marqué les téfilines. Pour l'instant, littéralement, c'est marqué quoi? Non, qu'est-ce qui sera l'Echa Léot? Non. Non, juste avant, on t'a pas parlé de Korban Pessah, on t'a dit Veigad et Talebincha. Donc il semblerait que cette Agada sera pour toi Léot Aliadecha ou Zikaron Benenecha.
La main, non, avec une main.
On te dit, je relis le verset, les deux versets ensemble. Parce qu'on ne peut pas séparer les deux versets. Ils sont vraiment écrits l'un à la suite de l'autre. Donc on nous dit Veiga de Talebincha Bayom Aoulemor Baavourze Asa Hashemli Betsetim Yitzraim. Donc tu vas raconter à ta manière, on a dit, à ton fils toute cette histoire. Et cela sera pour toi un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux. Donc a priori, de quoi on parle? Ce que j'ai raconté à mon fils. Ça sera un souvenir, un signe sur le bras et un souvenir entre les yeux. C'est de ça qu'on parle.
De Yetziat
Mitzrayim. Donc on ne parle pas des boîtes noires. On m'en a pas parlé des tefilines pour l'instant. Ça a l'air. Et on me dit, tu garderas cela, Veshamarta et Tachuka Azot, le mot Adam, Yamim et Mima. Tu garderas cela toujours. Ok. Et on va continuer. Volontairement, je ne parle pas encore de ça, j'y reviendrai dans deux secondes. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך לך סירה לאבותיך ונתנה לך אל תנה לך cette fois סליחה je dis n'importe quoi lorsque tu vas arriver en ארץ ישראל ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שקר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. Cette dimension de Bechor chez les animaux qui sont les tiens maintenant en ארץ ישראל, eh bien pour les rattacher à toute cette histoire là tu les emmèneras au Bet Amikdash. Aha, וכול פתר חמור תיבדה בסה, ואם לא תיבדה בערבתו, וכול בכור אדם בבניך תיבדה. Alors, chez les animaux, soit tu fais le corban, si c'est un animal qui est corbanable, sacrifiable, mais si c'est un animal impur, comme l'âne, eh bien tu rachètes la valeur de cet animal-là, et c'est cet argent que tu donnes au Beth Amikdash. Chez les êtres humains, tu rachètes. C'est-à-dire, le Bechor n'appartient pas au Kohen, tu le rachètes. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas racheté, il appartient au Kohen. C'est-à-dire, mamache, c'est vraiment pas à toi. Donc pendant 30 jours, il est en dépôt chez toi. Il appartient au Kohen, à tout moment, il peut venir le prendre. Au bout de 30 jours, tu le rachètes. C'est-à-dire, et à ce moment-là, Ve'aya ki ishalecha bincha machar lemor. Viendra un jour où ton fils, il te demandera demain. Et il te dira, mazot. C'est la question du tam dans la Haggadah. Il dira, mazot. Ah, ve'amarta elav bechozek yad otzianu Hashem mitzrayim mibet avadim. Donc tu le raconteras ce qu'on a dit tout à l'heure. Ve'igadeta lebincha. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני עבדי. Donc celui qui a posé la question, d'où tu sais que la parasha de Peter Rechem, elle vient après ce qu'on a lu avant pour faire référence à la Makat Bechorot, ben ici c'est clairement énoncé. Et rebelote. והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. מה זה הסיפור הזה עוד פעם? Ça sera pour toi un signe sur ton bras, et cette fois on ne te dit pas זיכרון בין עיניך, mais on te dit תותפות בין עיניך. Ça sera une תותפת. בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous avez dit que c'était les téphilines. Ma.
C'est ce qu'on connaît.
Ah non, c'est pas ce qui a marqué dans le texte. C'est sûr que c'est pas ce qui a marqué dans le texte. À aucun moment tu as marqué le mot téphiline. Donc c'est pas marqué dans le texte. Maintenant, tu as raison que Rashi dit Zéat téphiline. Il dit Zéat téphiline. Il va même te donner une explication fantastique. Regardez, je vous invite à prendre l'explication qui va beaucoup plaire à mon ami Shabtai. Iné, regardez ce qui a marqué dans le Rashi qui dit « Ou le totafot ben enecha ». Vous avez le Rashi? C'est en bas de la page 60, le dernier Rashi en bas, Tetzain. C'est 6 et 0. C'est dans le verset, j'ai dit Tetzain. J'ai dit Tetzain. Non, il a fait exprès. Donc, qu'est-ce que c'est totafot? Rashi dit tefilin. Aval ma kesher totafot ve tefilin? Il te dit attends. Ve'al shem shem arba batim. Pourquoi est-ce que ça, la Torah elle les a appelés totafot? Parce que dans les tefilin, il y a quatre, dans la tefilin de la tête, il y a quatre parties. Vous voyez, quel rapport? Quel rapport entre quatre parties et totafot? Il nous dit, Rashi, krouim totafot. Pourquoi est-ce que, parce qu'il y a quatre. Partie dans la boîte, ça s'appelle totafot, qui tat be kitfei shtaim ou pat be afrikei shtaim, donc c'est bon. Le compte est bon. Il te dit le mot tat en kitfei, je ne sais pas quelle langue c'est deux, ça veut dire deux. Le mot kat en kitfi, ça veut dire deux. Et le mot pat en africain, ça veut dire deux. Non, ne me regarde pas comme ça. Je ne sais pas quel dialecte africain. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que Rashi veut me dire ici. Hein? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'ivoirien? Est-ce que c'est du congolais? Je n'en sais rien du tout.
Ou l'arabien?
Non, mais non, il te dit Afriki. Afriki, ça ne peut pas être l'arabien. Afrique et la Mésopotamie, ce n'est pas la même région. Bekitsour, je ne sais pas quel dialecte il s'agit, mais Rashi connaissait certainement un dialecte. A priori, on parle de ce qui se parlait à cette époque-là, à l'époque de Rashi, en Tunisie. Parce que Afriki, dans le langage de Chazal et de les Derishonim, c'est la Tunisie. Enfin, c'est ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Donc, je ne sais pas exactement quel dialecte on parlait à ce moment-là dans cette région-là. J'en sais rien. Mais Rashi te dit, ben voilà, ça veut dire deux, ça veut dire deux. Deux et deux, ça fait quatre. Boum, dans les tefilines, il y a quatre trous. Donc, ben, tout est fait. Ah, donc tu dis pourquoi il a utilisé ces deux pays-là? Bonne question, hein, très bonne question.
C'est arbitraire.
Hein, complètement. Ou semble-t-il, il a reçu ça de ses pères. Mais une chose est sûre, ça va beaucoup embêter son petit-fils. Le petit-fils de Rashi s'appelle Rabbeinu Shmuel ben Meir. Hein? Non, alors Rabbeinu Tam, c'est le petit frère. C'est aussi le petit-fils de Rashi, mais moi je te parle du grand frère. Le Bechor des petits-fils de Rashi, le premier des Tosafot, il s'appelle Rabbi Shmuel ben Meir, plus connu sous ses initiales, Rashbam. Le Rashbam. Ok ? Alors, le Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, grand frère de Rabbeinu Tam. Je tiens à rassurer tout le monde, avant de dire ce que je vais dire, il mettait les tefillin. Ok ? J'en ai aucun doute, parce que sinon, il ne s'appellerait pas Rashbam. Il ne s'appellerait pas Rabbi Shmuel Ben Meir. S'il ne faisait pas la Torah, il ne serait pas Rabbi. Hein ? Alors, c'est toute ma question, mon ami. Parce qu'il a appris de sa mère. Je veux bien, quoique ça, c'est marqué nulle part. Il y a une agada comme ça qui se balade de dire que les filles de Rashi mettaient les tefillines. C'est marqué nulle part. La seule femme dont on sait avec certitude qu'elle mettait les tefillines, puisque c'est marqué dans le Talmud, c'était Michal Bat Shaul. Mais sur les filles de Rashi, on ne sait pas. C'est une agada, c'est une légende. Pourquoi pas ? Maintenant, la question est, tant la mère de Rashbam que Rashbam lui-même, est-ce qu'il mettait les tefillines comme son frère ou comme son papy ? Puisqu'il y a deux façons différentes de mettre les tefillines, celle de Rashi et de Rabbeinu Tam. Donc disons que la fille de Rashi, mère de Rabbeinu Tam, mettait les tefillines, elle mettait comme son père ou comme son fils ? Un vrai dilemme juif.
Ce sont les mêmes textes.
Ce sont les mêmes textes, mais mis dans des ordres différents. Nahon, exactement. Exactement. Non, je ne vais pas rentrer dans la marloquette de Rashi Rabbeinu Tam. Mais je dois poser la question. Rashbam, il mettait les tefillines. Mais d'où il les a appris ? D'où il a appris qu'il fallait mettre les tefillines ? Puisque le Rashbam nous dit, dans le verset qu'on est en train de lire, il nous dit « Sabi mori amar shezet tefillin » Donc papy, il a dit que c'était les tefillines, Rashi. « Ve amar shezet lefi pshuto shel mikra » Et que c'est ça le pshat. Aval lo kach nocha da'ati. Mais c'est pas mon avis. Qui le fit omek pshuto shel mikra, parce que selon la profondeur du pshat, donc en vrai, d'après le pshat, c'est pas les tefillin. Et là, c'est quoi ce verset? Vaya le hot aliadecha ou les zikaron ben enecha. Il dit, c'est la sortie d'Égypte. Qui est marqué dans le texte. Et elle se doit d'être pour toi un signe sur ton bras. Et il nous explique le Rashbam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes tes actions faites avec ton bras doivent être rattachées à la sortie d'Égypte. Et de la même façon, elle doit être Zikaron Ben Enecha. C'est quoi Ben Enecha ? Il y a quoi entre tes yeux ? Ton cerveau. Donc dans ta tête, tu dois avoir tout le temps la sortie d'Égypte. Et à quel point tu dois l'avoir tout le temps ? Eh bien, parce que c'est totefet, mazet totefet, là littéralement, en hébreu, totefet c'est un bijou. Et donc, de la même façon que les femmes, elles ont toujours leur totafot sur la tête, où il y avait un bijou à l'époque, on voit ça aujourd'hui dans les jeunes filles qui font un aîné et qui veulent s'habiller à la mode de l'époque, eh bien, elles se mettent une couronne comme ça avec un bijou qui descend ici, bah, c'était un bijou, il y avait sûrement différents modèles, mais ça c'était la totefet. Et donc, nous dit Rashbam, de la même façon que les femmes, elles ont toujours sur leur tête leur totefet, elles ne la quittent jamais, eh bien, toi aussi, tu dois avoir la sortie d'Égypte devant tes yeux, c'est-à-dire dans ta tête, toujours. Voilà comment Rashbam explique les versets. Mais j'ai dit, pourtant, le Rashbam mettait les tefillines. Et quand il mettait les tefillines, je vais vous dire mieux que ça, il pensait que c'était des oraita. Mais d'où est-ce qu'il l'a appris ? De quel verset il a appris qu'il fallait mettre les tefillines ?
Il y a un verset qui parle des mitzvot.
Oui, mais les mitzvot, ce n'est pas les tefillines.
Non, les mitzvot, tu les attacheras à ton bras.
Et est-ce que ça veut déjà dire que c'est les tefillines ?
Je pense que le fait...
C'est pas clair non plus là-bas. Parce que ça peut être attaché... Alors, très bien, alors je vais peut-être que... Par exemple, je prends la mitzvah de tzitzit et je l'attache sur mon bras. J'entends bien, mais pourquoi est-ce que tu dis que ça, c'est la boîte noire qu'on met là ?
Alors, tu veux dire qu'on n'a aucune preuve avant Rashi et ses enfants ?
De quoi ?
Des tefillines.
Ah non, pas du tout, c'est pas ça que je dis.
Ah bon ?
Ah non, ça, en l'occurrence, on en a plein des preuves. Par exemple, on a retrouvé les tefillines des soldats de Bar Korva dans les fouilles archéologiques. On les a retrouvés. On a retrouvé également des textes qui datent de l'époque du Deuxième Temple qui parlent des tefillines. Maintenant, donc ça, c'est sûr qu'à l'époque du Deuxième Temple, il y a les tefillines. Maintenant, les gens de la critique biblique, Ils disent, ah bah oui, les tefilin, c'est une invention de l'époque du deuxième temple. La preuve, c'est que c'est marqué jamais mentionné clairement dans le Tanakh. Donc, puisque c'est jamais mentionné clairement dans le Tanakh, c'est la preuve qu'on ne mettait pas les tefilin dans le Tanakh, mais on les a inventés après. Alors, évidemment, c'est une erreur. Pourquoi ? Ben parce qu'on a des preuves, pas dans le Tanakh, mais dans l'époque du Tanakh. On a retrouvé à Nineveh, donc en Irak, dans le nord de l'Irak actuel, on a retrouvé la salle du trône de Sanhérive, roi de Assyrie. Le Sanhérive qui est venu détruire le royaume du nord d'Israël en moins 721. Ok ? On a retrouvé sa salle du trône dans les fouilles archéologiques. Et dans la salle du trône, on a retrouvé un mur que vous pouvez voir aujourd'hui au British Museum à Londres. On a retrouvé un mur gravé où il a en fait gravé ses exploits. Quel exploit ? La conquête de la ville juive de Lachish. Dans le territoire de Mamlechet Yehuda, il y a une ville qui s'appelait Lachish, et Sanhérive l'a détruit. Maintenant, il a fait graver la conquête de Lachish. Ok, cool. Comment est-ce qu'il a représenté cela ? Eh bien, on voit les soldats assyriens en bas de la muraille tirer des flèches vers la muraille. On voit une muraille et on voit au-dessus de la muraille les soldats juifs de Lachish qui défendent la muraille. On ne voit pas leur corps, on voit que leur tête qui dépasse de la muraille. Cool. Je rappelle que ces soldats juifs sont à l'époque où on est dans la période du royaume de Judée, à l'époque du Beit HaMikdash. D'après la Torah,
premier.
Donc l'époque du Tanakh. D'après la Torah, lorsqu'on part en guerre, on doit avoir les tefillin sur la tête. C'est là non plus pas marqué de manière textuelle. Il y a juste marqué que lorsque tu sors en guerre, il faut que Shem Hashem Nikra Alecha. Il faut que le nom de Dieu soit visible sur toi pour que les nations en aient peur. Rachid dit là-bas encore une fois, Zat Filin. Il y a une asmarta, il y a une réalité archéologique là-dedans, puisque comme je l'ai dit, on a retrouvé les tefillin de Bar Korva, des soldats de Bar Korva, sur les casques et les différents objets de guerre des soldats de Bar Korva. Donc, c'est-à-dire que ça faisait partie des objets de la guerre. Mais, encore une fois, c'est l'époque du deuxième temple. Dans cette salle du trône, eh bien, on retrouve, donc j'ai dit, les têtes des juifs dépassant de la muraille. Maintenant, ce n'est pas des artistes juifs qui ont fait ça. C'est des artistes assyriens qui ont gravé ce qu'ils ont vu. Et donc, tu vois que les soldats juifs, ils ont des barbes. Bon, tu me diras, les Assyriens aussi, ils avaient des barbes. C'était la mode à l'époque. Mais ils ont tous sur la tête un serre-tête avec au milieu, entre les yeux ici, un carré. Donc, ça veut dire que les gens, les soldats assyriens, quand ils voient les Juifs, ils les voient tous arriver avec des lanières ici et un carré au milieu. Nous, on sait très bien ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, ça s'appelle les tefillin. Maintenant, donc, les tefillin, bien sûr, ce n'est pas une invention moderne, c'est déjà depuis Moshe. Mais deux secondes, je veux comprendre le Rashbam, d'où il les a appris. Eh bien, il ne les a pas appris d'un verset. Il les tient de Massoret. Il les tient de tradition depuis Moshe, qu'on met les tefillin et que c'est une mitzvah d'Oraïta. Mais elle n'est pas marquée dans la Torah. Bon, en l'occurrence, c'est que pour les hommes, c'est l'homme chané. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc, toutes les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit. Ça veut dire qu'elles ne sont pas obligées.
Vous avez dit que la prière, les femmes étaient obligées de faire la prière.
Nahon, parce qu'il y a une particularité dans la prière. Mais les autres mitzvahs qui sont liées au temps. J'ai dit, la tefila, c'est une particularité. Les autres mitzvahs liées au temps, les femmes en sont dispensées. Donc, elles ont le droit, mais elles ne sont pas obligées. Donc, eh bien, on a reçu cette mitzvah d'Oraïta, mais elle n'est pas marquée. Parce que le terme d'Oraïta ne veut pas dire marqué dans la Torah. Le terme d'Oraïta veut dire qui vient de Dieu. D'Erabanan veut dire qui vient des rabbins, des hommes. Des fois, tu peux avoir un d'Erabanan marqué dans la Torah, et des fois, tu peux avoir des d'Oraïta pas marqués dans la Torah. Exemple, le fait de faire une ktouba au mariage, c'est mitzvah des rabbanan, qui est marqué dans la Torah. Ou le fait de... Oui, mais ça c'est marqué dans la Torah. Oui, mais c'est une mitzvah d'Oraïta. le guet. Je parle de la ktouba. La ktouba, c'est une mitzvah des rabbanan. C'est une mitzvah qui a été mise en place par les rabbins. Puisque je te rappelle que dans la Torah, tu peux te marier tout simplement en ayant une relation avec la demoiselle. La ktouba, c'est quelque chose qui a été mis en place par les rabbanim. Mais elle est marquée dans la Torah. De la même. Hein ? Quoi, la ktouba ? Ah, ben on l'a vu dans la parasha de cette semaine. Ben, le passage nous dit qu'il va falloir donner Kemo'ar Abetulot. Et ça reviendra dans la parasha de Kitetsé. Que si jamais quelqu'un il viole une femme qui est vierge, il devra donner le prix des vierges. C'est ce que dit Shrem, non pas Shrem, Hamor, le père de Shrem, lorsqu'il a, il est conscient que son fils a violé Dina. Alors ils disent, dites-moi ce qu'il faut payer, Kemo'ar Abetulot. Mo'ar Abetulot, Zak Touba. C'est ça qu'on marque dans la Ketouba. Oui, oui, c'est marqué sur un papier. Mais... Oui, oui, bien, tu as raison. La Ketouba, ce n'est pas simplement le parchemin, le papier sur lequel on marque les choses. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué dedans. C'est-à-dire, c'est l'indemnisation de la dame si jamais vient à avoir lieu un divorce. Ok ?
Je comprends bien, les lois viennent de trois origines.
Dis-moi.
Et ouais, je vais te dire.
Je ne sais pas.
L'origine divine.
Oui. Non, ça fait que deux. Ça vient de, les lois viennent d'Akadosh Baruch Hu.
Je fais
une distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Il y a les rabbins qui ont la prérogative de rajouter des choses. Ça vient d'eux. On doit s'y soumettre, mais ça vient d'eux. Et il y a des choses qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Je dis simplement que parmi les lois qui viennent de Dieu, il y en a qui ont été marquées dans la Torah et d'autres non. Par exemple, tu n'as pas le droit de coucher avec ta fille. C'est une mitzvah de Oraita. Pourtant, ce n'est pas marqué dans la liste des interdits de la paracha de Hémor. Mais ça reste quand même une mitzvah de Oraita. Ok ? Par exemple. Alors qu'il y a des mitzvahs de Rabbanan, comme j'ai dit, qui ont été marquées dans la Torah, bien qu'elles venaient de Moshe directement. Et pas de Dieu. C'est bon ? C'est clair ? Donc, le Rashbam pense que les tefillin, c'est une mitzvah de Oraita, mais elle n'est pas marquée dans la Torah. Ok ? Maintenant, en quoi, à ce moment-là, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte ? Eh bien, je l'ai expliqué dans le cours que j'ai donné à la Midrashet Manitou cette semaine sur la Neshama de la Mishnah dans le traité de Hérouvin. On a parlé longuement des Tfilines pendant une heure. Et là-bas, on a expliqué que les Tfilines sont évidemment en souvenir de la sortie d'Égypte parce que les pharaons et les familles royales égyptiennes avaient des Tfilines, seulement en forme de serpent et pas en forme de boîte, à ligne droite. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie sur le cours de la Neshama de la Mishnah de la semaine dernière. Là-bas, vous aurez toutes les réponses.
Les ninjas.
Les
ninjas. Oui. C'est aucun rapport.
Tu parles des ninjas du Japon.
Oui.
Les tortues ninja, quoi. C'est d'eux que tu parles.
Non, mais les Japonais mettent un vrai truc.
Mais pas du tout ça à l'endroit des tefillin.
Non, à l'origine, mais... ça vient de juifs qui auraient été...
Bon.
J'ai entendu ça d'un rave.
Sérieux ? Ouais. Je la connais pas, celle-là. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, c'est un rave karaïte. Ah bah si ! Parce que les ninjas mettent leurs bandeaux à l'endroit où les karaïmes mettent les tefillin. Parce que les karaïmes, ils mettent les tefillin là. Parce qu'il y a marqué Benenecha. Ce qui d'ailleurs est un problème parce que d'où ils savent qu'il faut mettre des tefillines ? On a dit, c'est pas marqué dans la Torah et pourtant ils les mettent quand même. Donc ils sont bien obligés d'accepter la Torah chez Béalpé, mais ça on a déjà dit qu'ils ont plein de contradictions internes. Mais à ce moment-là, les ninjas, parce que les tefillines on les met pas là. Par contre, oui, bien sûr que c'est ça qui a inspiré le houkal des Arabes. Le chout qu'ils mettent sur le kafia. C'est-à-dire pour tenir la kafia. Ça c'est bien placé à l'endroit des tefillines. D'accord, c'est passé là. Et à ce moment-là, ça semblerait correspondre à l'avis du Rashba, pas du Rashbam, mais du Rashba, qui lui pense que les tefillines de la tête, on doit les mettre sur les vêtements, sur le talit. Enfin, sur le plus haut vêtement que tu as. Si c'est un chapeau, sur le chapeau. Mais bon, en général, les gens, ils prient plus avec un talit sur la tête qu'avec un chapeau quand il y a le matin.
Ils ont retrouvé sur les métiers, les tefillines sur le casque.
Ah, tu parles de Bar Kokhba ?
Oui.
Non, ils n'ont pas trouvé sur le casque, ils ont trouvé avec le casque.
Ça fait partie aux Américains, aujourd'hui, les militaires. Ils ont sur le casque,
ils ont la caméra.
Ils ont la caméra. Non. Tov et Obezé, Siam, nous, on a terminé la paracha de Bo. Chazak ou Baruch.
Concrètement,
quoi? La paracha de Bo, on a fini?
Concrètement.
Oui.
C'est sûr.